Comme ça a été annoncé, nous allons continuer l'étude du livre de la Genèse. Et la semaine dernière, on a étudié la première présentation sur Abraham. Abraham qui est un personnage assez riche, et on a évidemment beaucoup de choses à dire sur Abraham. Donc on a deux semaines sur Abraham, ce qui est peu à la fois. Pour traiter l'ensemble de ce qui a été dit à Abraham et l'importance d'Abraham dans la Genèse, mais aussi, j'essaierai aussi de dire quelque chose aujourd'hui de l'importance d'Abraham au-delà de la Genèse. On va y venir. Et l'idée que j'avais au départ, c'était d'essayer de voir, puisqu'on parle aujourd'hui de l'héritier, la promesse de l'héritier qui a été faite à Abraham, d'essayer de voir comment aussi Abraham est présenté, non seulement dans la Genèse, mais aussi après, comme, et ça c'est une citation de l'Épître aux Romains, le père de tous ceux qui croient. Et c'est une expression qui est devenue très, très populaire, parce que quand on parle d'Abraham, on dit le père des croyants. Et les gens, on parle d'Abraham comme ça, on parle de religion abrahamique, et puis on inclut un certain nombre de choses. Et même, je ne sais pas si récemment, il y a eu des traités qu'on a appelés les traités d'Abraham, les accords d'Abraham, parce que ça mêlait à la fois des pays musulmans, des pays... Israël en particulier. Et donc Abraham, c'est un peu cette référence de le père des croyants. Et je voulais regarder ce que ça voulait dire, et on va essayer de comprendre comment la Genèse parle d'Abraham comme ça. Je voulais simplement revenir sur quelques alors, comme on a inversé les présentations, moi j'avais prévu de faire un peu un rappel chronologique, mais bon, ça a été fait la semaine dernière. Mais vous vous rappelez, là on en est dans la parole, hein, on a étudié le début de la Genèse, et on passe des 11 premiers chapitres, hein, donc qui étaient très généraux, on l'a rappelé la semaine dernière, à ce moment où on va resserrer le propos, où la Genèse devient beaucoup plus précise, puisqu'on n'est plus dans cette grande histoire de toute la création, etc., une histoire beaucoup plus précise, puisqu'on va se concentrer sur quelques personnages, quelques moments, puisqu'on se resserre sur l'histoire donc d'Abraham à partir du chapitre 11, fin du chapitre 11, avec sa généalogie. Et simplement pour rappeler un contexte historique aussi, quand est-ce qu'Abraham a vécu ? Généralement, on le situe 2 millénaires avant Jésus-Christ, donc il y a 4000 ans. Alors, bon, je ne rentre pas dans les détails, moi je ne fais pas la généalogie, je ne chiffre pas exactement, précisément où, mais on est globalement 2000 ans avant Jésus-Christ. Et on va voir ce que nous montre l'histoire d'Abraham. Et pour résumer, l'histoire d'Abraham, pour moi, c'est une succession de renoncements. Déjà parce qu'on lui demande de quitter la maison de son père, donc il doit renoncer déjà à ça, et on va voir l'importance que ça a de renoncer à cet héritage quelque part. Et à la fin, puisqu'on parle de l'héritier, il doit aussi renoncer à son héritier, puisque ça se finit, cette histoire, au chapitre 22, avec l'histoire d'Isaac, où on lui demande de renoncer à son fils. Et donc du début où il quitte jusqu'à la fin où il doit peut-être renoncer à son fils, c'est une histoire qui commence et se termine par ce renoncement. Et dans toutes les étapes de sa vie, qui est une vie qui n'est pas une vie facile, qui est une vie aussi pleine de... L'histoire d'Abraham, on a commencé à en dire quelque chose la semaine dernière, mais c'est une histoire qui n'est pas une histoire modèle. C'est quelqu'un qui n'est pas présenté, en tout cas la parole ne fait pas une hagiographie, hein, elle montre aussi tous ses défauts, elle montre aussi toutes les choses qui ont été... finalement raté dans la vie d'Abraham. Mais dans toute cette vie, c'est une histoire où Dieu accompagne Abraham. Et finalement, la promesse qui lui est faite, dont il va être le relais pour toutes les familles de la terre, cette promesse de la foi, cette promesse concrète d'avoir à la fois un territoire et un Dieu avec lequel il va avoir une relation, c'est quelque chose qui est maintenu tout au long de cette histoire chaotique. Donc c'est une histoire d'une relation entre Dieu et Abraham qui évolue, et au cours de sa vie, il y a la confirmation de bénédiction jusqu'à la réalisation avec l'arrivée d'Isaac, et on voit que c'est le début, finalement, de la réalisation des promesses qui lui avaient été faites. Et l'Épître aux Hébreux, puisqu'on en a parlé la semaine dernière, l'Épître aux Hébreux nous montre bien l'exemple de la foi d'Abraham. Il nous montre que c'est, on peut s'appuyer sur cette foi et qu'on doit la prendre comme un exemple. En tout cas, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Alors, désolé, c'est pas très lisible, mais je relirai simplement ce qui concerne. Alors, on a lu la semaine dernière ce qui concernait particulièrement la promesse par rapport au territoire, par rapport à la terre. Et je relirai ce que j'ai mis en gras, qui concerne plus particulièrement les promesses par rapport à l'héritier. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir pour héritage, et il s'en alla, ne sachant où il allait. Par la foi, Sarah elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité, et cela étant hors d'âge, puisqu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est pourquoi aussi d'un seul et d'un homme déjà amorti sont nés des gens qui sont comme des étoiles du ciel en nombre et comme le sable qui est sur le rivage de la mer, lequel ne peut se compter. Par la foi, Abraham étant éprouvé, a offert Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique, à l'égard duquel il avait été dit « En Isaac te sera appelée une semence », ayant estimé que Dieu pouvait le ressusciter, même d'entre les morts, d'où aussi en figure il le reçut. Voilà ce que l'Épître aux Hébreux résume de la vie d'Abraham et la vie de Sarah. Ces promesses et le fait que, bien que ça semble impossible, les deux ont cru. Les deux ont pensé que c'était possible que cette promesse se réalise. Et donc, pour décortiquer un peu, pour rentrer dans le texte, j'ai choisi... j'ai choisi un plan en trois parties. D'abord, sur le renoncement à l'héritage, la manière dont Abraham va devoir renoncer à ce que lui avait reçu au départ pour recevoir autre chose de la part de Dieu. Deuxièmement, recevoir la promesse et les difficultés qu'Abraham rencontre pour croire à ce que Dieu lui dit. Montrer que, finalement, voilà, ça peut être répété un certain nombre de fois par Dieu, il a du mal à accepter et cette foi, elle se développe petit à petit, on le voit, et Dieu répète la promesse. Et puis finalement, eh bien ça s'accomplit et Abraham et Sarah accueillent l'héritier au cours de ce récit. Et donc voilà, on va suivre ça. Alors ça ne sera pas exactement chronologique parce que j'ai essayé de montrer comment finalement les choses se déroulent pour les deux, pour Abraham et Sarah. Alors, j'avais simplement repris ce plan, mais je crois qu'on en a déjà assez parlé la semaine dernière, mais essayer de rappeler le développement de l'histoire d'Abraham. Donc, je le laisserai dans le diaporama, vous pourrez la voir après, mais je ne vais pas rentrer dans le rappel de l'ensemble du déroulement de la vie d'Abraham. Mais voilà, vous avez le plan global de ces chapitres, donc 11, fin du chapitre 11 jusqu'à chapitre 25. Donc d'abord, ce renoncement à l'héritage. L'histoire d'Abraham, on l'a dit, hein, elle se place au début du resserrement de l'histoire de la Genèse. Et au début, on a eu ces grands récits où il y a eu beaucoup de jugements, beaucoup de difficultés aussi pour l'humanité, de manière générale. L'humanité a été bannie du jardin d'Éden, il y a eu la destruction après le déluge, il y a eu la chute à Babel, la destruction de la tour, donc ça c'est au chapitre 11, avec un certain nombre de malédictions concernant le serpent, le sol, la malédiction aussi concernant Caïn, la servitude de Canaan, et puis les distinctions linguistiques, on a vu la diversité des langues aussi comme malédiction, l'incompréhension entre les nations. Et donc c'est une histoire qui est déjà difficile, le début de l'histoire de l'humanité et de cette relation avec Dieu. Depuis la chute, on voit que voilà, c'est une histoire qui est faite d'embûches. Et le début de l'histoire d'Abraham, c'est un recommencement. Il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle relation possible entre Abraham et Dieu, et finalement entre l'humanité et Dieu. Et la première étape de cette histoire, c'est le départ de Ur des Chaldéens. Alors, c'est ce qui est mentionné en Genèse 11. à la fin du chapitre 11 de la Genèse, au verset 31, Térak prit Abram son fils et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan et habitèrent là. Et donc la première chose, c'est de se dire, mais voilà, ils s'en vont tous, Abraham et sa parenté. Et on peut se demander déjà pourquoi il faut qu'ils quittent cette ville. C'est pas que je vais parler du territoire, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais il y a un sens spirituel aussi lié à l'héritage de quitter cette ville. Donc Térak, hein, c'était un descendant de Noé par la lignée de Sem, et il avait ses trois fils, donc Abraham, Nacor et Haran, et le dernier, hein, Haran, c'est le père de Lot. Et il faut qu'il sorte de Ur. Alors Ur, c'était une ville. Ici, on pense que ce sont les ruines de cette ville. Alors c'est aujourd'hui dans le sud de l'Irak, c'est la ville qu'on considère comme étant probablement Ur des Chaldéens. C'est une ville qui était particulièrement marquée par son temple, qu'on appelle une ziggourat. Et c'était une ville où on pratiquait, comme dans d'autres villes à l'époque, hein, un culte qui était rendu au dieu lune. Donc on adorait les astres, en particulier ce qui était dans le ciel, et en particulier la lune. Il y avait le dieu lune, qui s'appelait Sin, et il était vénéré. Et puis c'est une ville riche, parce qu'autour de cette ziggourat, on avait une bibliothèque, on avait il y avait une école, il y avait donc certainement beaucoup d'intellectuels, des religieux, et puis voilà, tout un commerce qui s'était développé autour de là. Et on peut imaginer que c'était une ville où il était assez confortable de vivre, et de continuer à rendre culte à cette idole. Et donc quitter cette ville, c'est pas simplement changer de territoire, c'était aussi quitter cette ascendance spirituelle et cet héritage spirituel. Abandonner les idoles, abandonner ce mode de vie. Et donc, ils s'en vont tous, et puis ils vont jusqu'à Charan. Alors, une autre ville où il y avait aussi une ziggourat, où il y avait aussi l'adoration du dieu lune, et peut-être que c'est pour ça que Térak, lui, s'arrête là. Parce qu'il dit, il se transplante, et puis il va dans une autre ville, et puis il retrouve le confort, il retrouve la ziggourat, il retrouve le dieu lune, et il va s'arrêter là. Et Abraham, lui, voilà, Dieu lui demande d'aller plus loin, de sortir, encore une fois, mais vraiment complètement de ce régime-là, de changer les choses et d'abandonner, encore une fois, le dieu lune. Et c'est là où on a vu, hein, il continue, lui seul avec Sarah, le reste de la famille ne vient pas. Et on a vu la semaine dernière, hein, qu'il quittait en allant vers l'inconnu, ne sachant où il allait. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle certainement aussi de ce que beaucoup ont vécu quand ils ont répondu à leur appel. Moi, j'ai pas une histoire comme ça, j'ai pas le souvenir de ma conversion, j'ai pas quelque chose comme ça à raconter, mais je sais que y a beaucoup de gens qui peuvent raconter un départ, un abandon d'idolâtrie, ou voilà, en quelque sorte de l'idolâtrie, puisqu'ils n'étaient pas à Dieu. Et Dieu leur a permis de vivre une transformation, et ils ont eu à renoncer. Et Abraham nous parle de ça aussi. Voilà. Il a cette histoire d'un renoncement. Il renonce à son héritage, il renonce certainement à un confort. Il renonce à ce que ses parents lui avaient transmis en termes spirituels pour aller vers autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose que Dieu va lui donner. Et c'est ce qui est contenu dans la promesse. Donc ça nous parle de ce passage vers une histoire qui va conduire à ce qu'il y a un Dieu sauveur. Et beaucoup, peut-être, ont vécu ça aussi, cette transformation, cet abandon conscient d'un héritage. Et à ce stade, par contre, Dieu ne s'est pas complètement révélé à Abraham. Et il faut qu'il... Il fallait qu'il quitte cet héritage pour pouvoir recevoir la révélation complète de Dieu. Et bon, je ne lirai pas, hein, mais il y a un certain nombre de passages dans l'évangile où Jésus, quand il appelle ses disciples, il leur demande d'abandonner des choses, d'abandonner les filets pour le suivre quand il appelle ses disciples. Et puis, voilà, je pense à un certain nombre de personnes qui ont abandonné leur passé, qui ont changé de voie pour suivre Jésus. Et donc, le premier élément de la bénédiction qui est donné à Abraham au chapitre 12, c'est, on l'a dit la semaine dernière, le pays. Et puis, tout de suite après, au début du chapitre 12, je lirai juste le début du chapitre, hein, « Va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Voilà, c'est tout de suite après la promesse du pays, il y a cette promesse d'être une grande nation, d'avoir cet héritage nombreux. Et à ce moment-là, cette promesse-là, elle était tout aussi peu probable que celle d'avoir une terre, hein. Parce qu'une des premières choses que l'on dit sur sa femme, sur Sarai, c'est qu'elle était stérile. Donc, quand Abraham reçoit cette promesse, finalement, à la fois la promesse d'avoir un pays et la promesse d'avoir une descendance, ça semble complètement absurde, et c'est quelque chose qui est très loin de ce que Abraham pouvait espérer humainement. Et c'est quelque chose qui est bien souligné dans l'Épître aux Romains, quand l'apôtre Paul parle de cette promesse et de la façon dont Abraham l'a reçue. Il lui dit, hein, donc c'est Romains 4 au verset 17 et 18, l'apôtre Paul parle d'Abraham, lequel est père de nous tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père de plusieurs nations, devant Dieu qui l'a cru, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, qui, contre espérance, crut avec espérance pour devenir père de plusieurs nations, selon qu'il a été dit, ainsi sera ta semence. Et il dit, hein, n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps déjà amorti, âgé qu'il était d'environ 100 ans, ni à l'état de mort au sein de Sarah. Il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. Alors, c'est vrai que voilà, il y va, même s'il se sait amorti, c'est-à-dire déjà proche de la mort, finalement. Il est déjà, il n'est plus en âge d'avoir des enfants, et Sarah, de toute façon, voilà, n'était pas en situation d'avoir un enfant. Mais voilà, Abraham avance, et c'est là que Dieu lui apparaît. Il se met en route, et il va vers la promesse. Alors, un peu plus loin, il y a cette séparation encore avec son héritage quand Abraham se sépare de Lot. Alors, Lot, c'est pas son ascendant, donc on peut dire c'est un petit peu différent, mais on voit, alors je lirai pas tout parce que simplement l'heure tourne, mais si vous regardez au chapitre 13, cette séparation entre Lot et Abraham, c'est une histoire aussi de choix différents, de choix de vie qui sont différents. Et alors là, en particulier en ce qui concerne le pays, mais finalement, c'est aussi une question spirituelle, puisque Abraham fait confiance à Dieu, et voilà, il choisit non pas de rester forcément avec sa parenté, mais il comprend que voilà, il va y avoir une séparation au sein de cette parenté, encore une fois, parce que lui, il a choisi Dieu. Et Lot a fait des choix différents, et on recroisera Lot un peu plus tard à Sodome. Et on voit que Lot, lui, est resté peut-être dans une forme de foi qui est bien différente, attachée non pas forcément à ce qui est élevé, mais aussi aux choses de la terre. Mais voilà, donc c'est pour ça que je voulais l'inclure quand même là, dans cette histoire de renoncement par rapport à ce qui lui venait de ses aïeux, même de son père, et aussi de ce qui est dans sa famille de manière générale avec Lot. Abraham avance vers autre chose. Maintenant, il fallait recevoir cette promesse. Et alors, l'épître aux Romains, on l'a vu, montre qu'Abraham, lui, n'a pas douté. Mais en réalité, quand on lit l'histoire d'Abraham, on voit que c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'ultimement, il n'a pas douté, mais on voit bien quand même que le chemin n'est pas tout à fait aisé pour Abraham. Et dans l'histoire de cette réception de la promesse, il y a une histoire de transformation. Abraham, petit à petit, va être transformé et va recevoir une nouvelle identité. Donc recevoir la promesse, c'est aussi recevoir une nouvelle identité que Dieu lui donne. Et ça passe par des choses qui nous rendent peut-être un peu perplexes, parce que dans cette histoire d'acquisition de la nouvelle identité, bah parfois il cherche à dissimuler. Abraham a eu ce réflexe de vouloir par deux fois dissimuler son identité, et en tout cas l'identité de sa femme. Alors il le fait deux fois, il le fait d'abord en Genèse 12 quand il descend en Égypte. Donc ça c'est, voilà, vous savez, à ce moment de famine, et puis Abraham va chercher en Égypte de quoi manger. Et la deuxième fois, c'est à Guérar avec Abimélec. Et donc, par deux fois, il ment sur l'identité de Sarai, Sarah. Alors, il dit que c'est sa sœur. On va dire, oui, mais en fait, c'est un peu sa sœur. Alors, c'est vrai, c'est sa demi-sœur. Mais n'empêche que même si c'est partiellement la vérité, ça reste partiellement un mensonge. Donc, il ne dit pas réellement qui est celle qui l'accompagne. Alors, pourquoi il fait ça ? Parce qu'il a peur. Il a peur déjà quand il fuit, il a peur de mourir en Canaan, il a peur de mourir en Égypte ensuite. Donc il a peur à cause de la faim, il fuit en Égypte, et puis là il a peur de mourir là-bas, alors il ment sur l'identité de Sarai. Et ça nous dit que la peur peut changer notre comportement. Et je pense que c'est un encouragement à entendre encore une fois ces paroles de Jésus, hein, qui nous dit « n'ayez pas peur », plusieurs fois, « n'ayez crainte », et qui nous rassure beaucoup et souvent sur qui il est, et qui, quand il va voir les disciples, il y a beaucoup d'épisodes comme ça, notamment celui sur la barque où il s'approche et il dit voilà, « n'ayez pas peur, c'est moi ». Et en fait, Jésus-Christ nous répète ça sans cesse, et Dieu nous répète ça sans cesse, « n'ayez pas peur ». Et c'est bien parce qu'il sait que souvent, on a peur. Et donc il nous raconte comment il a fait avec Abraham. Il nous raconte aussi à d'autres moments comment il s'adresse à ceux qui sont proches de lui pourtant, hein, mais en leur disant n'ayez pas peur. Et en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu. Je pense que c'est quelque chose qu'Abraham n'a pas fait là à ce moment-là quand il est parti en Égypte. Il l'a fait sans consulter Dieu. Pourtant il avait déjà dressé des autels. Là il le fait pas. Et ça nous parle on a cette possibilité de prier, de rechercher la volonté de Dieu, d'exprimer nos craintes, d'exprimer nos peurs, et de recevoir à nouveau cette assurance, cette douce voix qui nous dit voilà, n'ayez pas peur, je suis là, c'est moi. Et bon, Abraham a ce moment de peur, et puis à nouveau, donc il sort d'Égypte, etc., et à nouveau avec Abimélec, il recommence. La peur est toujours là. Et pourtant, entre-temps, il y a eu la promesse de Dieu au chapitre 17. Et donc, on peut se dire, voilà, c'est étonnant, Abraham a cette peur et il ment à cause de ça. Alors, il ment à qui ? Il ment à des païens. Peut-être qu'il se disait que les païens n'auraient pas conscience du mensonge. Parce que, ils sont loin de Dieu, il n'y a aucun moyen qu'ils sachent. Et pourtant, les deux ont exactement la même réaction. À la fois, le pharaon dit « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» au chapitre 12, et Abimélec, au chapitre 20, dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ?» Exactement la même question. Et donc, même si les païens, on peut penser qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, si, en fait, Dieu leur a révélé le mensonge. Et il leur a révélé par des plaies sur la famille de Pharaon, dans le cas de l'Égypte, et puis par un songe, dans le cas d'Abimélec. Ils ont cette révélation, et ils peuvent s'adresser à Abraham sur cette question. Et alors, c'est une question qu'on peut se poser. C'est finalement, quand on voit ce qui se passe après, quand Abraham finalement quitte l'Égypte, il repart avec des tas de richesses, Et puis quand il repart de chez Abimélec, Abimélec lui fait des tas de cadeaux. On peut se demander, est-ce que finalement le mensonge ne serait pas récompensé? Et c'est là que je referai le lien avec la question de l'héritier. C'est qu'on voit que, en fait, non, même s'il repart avec ses présents, ses biens matériels, le péché a eu des conséquences. Et une des conséquences que ça a eu, notamment dans le cas de l'Égypte, c'est que parmi les cadeaux, il y a Agar, qui est cette femme qui va être la source de la désobéissance d'Abraham et qui va être un danger hein, pour le couple entre Sarai et Abraham. Et ça laisse des traces plus tard, et ça laisse même des traces au-delà des générations, parce qu'on a l'impression que Isaac, quand il fait la même chose avec Rebecca, il recommence un schéma qui avait déjà été celui de son père. Et donc il fait passer Rebecca pour sa sœur, etc. Et pourtant, voilà, dans cette histoire, ce qu'on peut retenir quand même, c'est que malgré tout, même s'il y a cette peur, même s'il y a des conséquences pour le péché, il y a la fidélité de Dieu. Et au nom de son alliance, Dieu va continuer à être là pour Abraham et il va continuer à être présent dans sa vie. Et c'est certainement pour aujourd'hui, hein, une invitation à continuer à consulter Dieu, à prier, à exposer nos craintes, à exposer nos peurs pour ne pas tomber dans les travers d'Abraham et de rester dans les promesses que Dieu nous fait. Alors, ensuite, j'avancerai sur le chapitre, un chapitre important, qui est le chapitre 17, et je vais lire le début du chapitre 17, les 7 premiers versets, et on va s'intéresser plus particulièrement à cette question de la nouvelle identité, d'abord d'Abraham, et puis ensuite on parlera de Sarai. Donc d'abord le début du chapitre 17, les 7 premiers versets. Abraham était âgé de 99 ans, et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait, et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement. Et Abraham tomba sur sa face, et Dieu parla avec lui, disant: Quant à moi, voici mon alliance est avec toi, et tu seras père d'une multitude de nations, et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations, et je te ferai fructifier extrêmement. Et je te ferai devenir des nations, et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta semence après toi, en leur génération, pour être une alliance perpétuelle, afin que je sois ton Dieu, à toi et à ta semence après toi. On est vraiment au cœur de l'histoire d'Abraham. Et ça nous parle de la façon dont Dieu a revu l'identité, a donné une nouvelle identité à Abraham. Et c'est aussi le chapitre, on verra, où Dieu donne le signe de l'alliance, c'est-à-dire la circoncision, et qui va confirmer publiquement l'alliance qui avait déjà été scellée au chapitre 15. Et là, ce que je trouve touchant, hein, c'est que c'est une alliance qui est vraiment personnelle entre Dieu et Abraham. Il lui dit: Mon alliance est avec toi. Il le choisit, il lui parle et il lui change son nom. Et le changement de nom, ça reflète le changement de statut d'Abraham. Et ça va lui rappeler constamment, puisqu'il a ce nouveau nom, ça va lui rappeler constamment la promesse qui lui a été faite. Alors, il y a beaucoup d'interprétations hein, sur qu'est-ce que ça veut dire ce changement entre père élevé, père d'une multitude. Abraham qui devient Abraham. On l'avait vu, hein, Benoît, tu en avais parlé hein, sur les noms, leur signification. Il y a d'autres interprétations que celles-ci qui sont données. Alors voilà, on rajoute une syllabe. Je sais pas tellement exactement comment interpréter ce changement précis, mais ce qui est réel, c'est que de toutes les façons, Dieu l'explique en disant: Je ferai, voilà, je t'ai établi père d'une multitude de nations. Donc père d'une multitude, ça a du sens. Père d'une multitude de nations, c'est la promesse que Dieu a faite. Et c'est ce que l'Épître aux Romains a rappelé, hein, je l'ai lu tout à l'heure, hein, Abraham a bien été le père d'une multitude dans la foi. Et ça a un impact immédiat dans la vie d'Abraham parce que, alors à l'époque, voilà, il y a Ismaël qui est là, et Ismaël est inclus dans la promesse, et lui aussi deviendra le père d'une nation à part entière. Mais on verra que l'alliance ne s'arrête pas à un seul enfant et qu'il y a voilà, une signification qui va bien plus loin. Et puis, ce changement de nom a une dimension spirituelle, puisque Dieu parle d'une alliance perpétuelle au verset 7. Une alliance perpétuelle. Une alliance qui ne s'arrête pas à sa vie, qui va aller bien au-delà et qui va aller au-delà des circonstances et qui va concerner toute sa descendance et tout le pays qui a été promis. Et alors, cette nouvelle alliance, elle est signifiée dans un geste très concret à partir du verset 8. Donc, je dirais, juste après, hein, je te donne à ta semence, après toi, le pays de ton séjournement, tout le pays de Canaan. Je vais juste aller au verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta semence après toi, que tout mâle d'entre vous soit circoncis. Et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et tout mâle de 8 jours en vos générations sera circoncis parmi vous, celui qui est né dans la maison, et celui qui est acheté à prix d'argent, tout fils d'étranger qui n'est point de ta semence. On ne manquera point de circoncire celui qui est né dans ta maison, et celui qui est acheté de ton argent. Et mon alliance sera en votre chair comme alliance perpétuelle. Et le mâle incirconcis qui n'aura point été circoncis en la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée de ses peuples, il a violé mon alliance. Voilà le signe très concret que reçoit Abraham de cette alliance et qui nous montre qu'il y a une manifestation aussi dans la chair et quelque chose dont on doit se souvenir dans simplement un attribut physique chez l'homme en tout cas de ce prépuce qui est coupé, cette circoncision qui a lieu donc dans le corps des enfants. On symbolise le fait qu'il y a une alliance qui existe entre ce peuple, entre cette famille, entre ce peuple et Dieu. Et puis le chapitre continue avec l'histoire de Sarah. Et donc je finirai lire simplement, je continuerai juste les versets 15 à 22. Dieu dit à Abraham, « Quant à Sarai, ta femme, tu n'appelleras plus son nom Sarai, mais Sarah sera son nom. Je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Et je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Et Abraham tomba sur sa face et rit. Il dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme âgé de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle ? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant toi !» Et Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui, comme alliance perpétuelle pour sa semence après lui. Et à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je l'ai béni, et je le ferai fructifier et multiplier extrêmement. Il engendrera 12 chefs, et je le ferai devenir une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah t'enfantera en cette saison l'année qui vient. » Ayant achevé de parler avec lui, Dieu monta d'auprès d'Abraham. Voilà la suite de la promesse qui concerne cette fois-ci sa femme. Et on a dit, hein, les choses qu'on a... Les caractéristiques de Sarai, telles qu'on la connaissait depuis le début de ce récit, hein, depuis le chapitre 12, c'est qu'on sait qu'elle est stérile, donc ça c'est la fin du chapitre 11, et on sait qu'elle est belle, puisque c'est pour ça qu'elle avait été cachée en Égypte. Voilà les deux choses qu'on sait d'elle, mais on sait, là on a cette promesse que des rois de nations sortiront d'elle, il y a une bénédiction. Et donc elle aussi, elle a besoin de changer d'identité pour ne plus être cette femme stérile, et pour être quelqu'un d'autre, et devenir cette mère, la mère d'une descendance qui sera nombreuse. Et donc en changeant de nom, Sarah peut entendre que son identité, finalement, elle n'est pas liée à sa stérilité, mais qu'elle peut être elle-même, elle peut être cette mère, elle peut devenir quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est pure grâce, parce que, il y avait cette limite physique, Mais Dieu permet que ça aille au-delà et qu'on de ne pas être limité par cet âge et par cette stérilité qui, visiblement, l'a caractérisé malgré son âge. Hein. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui, visiblement, était lié à son âge. Elle était stérile. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans la parole. Et je pensais à cette citation en Ésaïe 54, où le prophète Ésaïe hein, écrit « Exulte, stérile, qui n'enfantait pas, éclate en chant de triomphe et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas été en travail. Car les fils de la désolée sont plus nombreux que les fils de la femme mariée, dit l'Éternel. » Voilà, c'est quelque chose qui revient, hein, le fait que la stérile va pouvoir avoir des enfants, et elle n'est plus caractérisée par cette stérilité. Et alors, par contre, une chose qui est surprenante dans cette histoire, c'est que Abraham, lui, il insiste pour que finalement Ismaël, il fasse l'affaire, ça soit lui qui reçoive les promesses, et Dieu dit non, mais c'est bien le deuxième enfant qui sera l'héritier de la promesse. Et il lui donne le nom directement, et il lui dit, voilà, c'est lui qui sera qui sera l'héritier de la promesse. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans la parole, où finalement le premier, d'habitude c'est le premier-né qui reçoit les promesses, les héritages, etc. Et en fait on voit que déjà Abel a reçu plutôt que Caïn, Jacob reçoit la promesse plutôt qu'Ésaü, et là c'est la même chose avec Isaac qui vient en deuxième et qui reçoit plutôt que Isaac qui reçoit plutôt qu'Ismaël. Et c'est une logique qui finalement ne correspond pas à ce qu'on pourrait attendre, et qui, là encore, nous parle de la grâce. Et je pense que voilà, tout ce chapitre nous parle de la grâce de Dieu qui change les identités, qui permet d'aller plus loin que ce qui était visible à l'œil, qui permet à une femme stérile de ne plus être définie par cette stérilité et de devenir une mère, qui permet à un deuxième enfant d'être l'héritier de la promesse. Et là, on voit bien que nous-mêmes, qui n'étions pas spécialement destinés à avoir cette vie éternelle, eh bien, on reçoit, alors que Dieu aurait pu très bien faire autrement. Et c'est une logique qui n'est pas du tout une logique humaine, et c'est celle qui est présentée dans la parole de partout, de rentrer dans une logique différente qui est celle de la grâce. Et Abraham, il tombe sur sa face et il rit. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il manque de foi? C'est difficile d'interpréter ce rire. En tout cas, il a besoin d'entendre que cette promesse, elle ne concerne pas Ismaël, qu'elle concerne bien Isaac. Et Dieu profite de ce moment pour lui expliquer ce qui va se passer. Et donc, on a bien ce signe de la promesse. Et le chapitre finit par le récit de la circoncision qui a lieu donc, conformément à ce que Dieu a demandé, et qui nous montre que tous les hommes de la maison passent par ce signe concret qu'ils ont reçu la promesse de Dieu, qu'ils ont reçu cette promesse. Et la circoncision des enfants, c'était le témoignage de la grâce de Dieu et non du mérite humain. Et elle s'étend, c'est intéressant, elle s'étend aux étrangers. Tous ceux que Dieu fait rentrer aussi dans cette famille, ils reçoivent le même signe. Ils sont eux aussi concernés par la circoncision. Ce qui veut dire que la grâce, elle s'étend finalement à tous les croyants. Tous ceux qui rentrent dans la famille sont sous ce signe de grâce qui a été faite à Abraham et à Sarah. Alors aujourd'hui, on ne circoncit plus dans l'Église. C'est plus ça qu'on a comme signe, puisqu'on est dans une nouvelle alliance. On a reçu d'autres... On croit en Jésus-Christ et il y a une autre manifestation. Mais par contre, on a quand même des signes qui sont physiques. Et je crois que le fait de prendre la scène, alors je ne ferai pas un parallèle exact, hein, mais le fait de passer déjà par le baptême et ensuite de prendre la scène, ça nous permet à nous aussi de vivre concrètement dans nos corps des réalités spirituelles. Et parfois on peut se demander, on se dit mais en fait on croit, on a la foi, et on sait qu'on est sauvé, quelle que soit la situation, même quelqu'un qui ne serait pas baptisé, s'il croit, il est sauvé. Mais dans l'Église, on a quand même ces deux signes, ces deux sacrements, et qui impliquent nos corps. Et je trouve ça intéressant que Dieu nous fasse vivre des choses aussi, non pas simplement spirituellement, mais aussi dans des gestes physiques et dans des manifestations concrètes qui impliquent nos corps. Aujourd'hui, évidemment, c'est un signe qui est autre, mais qui, il me semble, nous rappelle un petit peu le fait que quand on croit, on s'implique aussi physiquement. Et j'en viens à cette dernière partie qui va être l'accueil de l'héritier. Donc il y a eu ces promesses à plusieurs reprises, et on va arriver à concrètement recevoir l'héritier, recevoir Isaac et recevoir cette multitude. Alors au début, au chapitre 15, Abraham, lui, on est un petit peu avant ce que je viens de lire, au début du chapitre 15, il dit « Oui, ben, d'accord, un héritier, c'est très bien, mais j'ai Eliezer. Eliezer de Damas, c'est mon héritier. » Alors, c'est tout début du chapitre 15, hein, il dit « Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et voici celui qui est né dans ma maison et mon héritier. » Il dit à Dieu, très bien, avant de parler d'Ismaël, etc., il parle d'Éliézer de Damas. Alors probablement qu'il avait été adopté parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant naturel. Et donc la première chose qu'Abraham fait, au début il ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive autour de cet héritier, cette promesse. Et donc il parle d'Éliézer. Et ça me semble en fait assez touchant comme récit, parce que ça nous montre que il n'y a pas de problème à exprimer notre incompréhension à Dieu. Abraham le fait très simplement. Il dit, mais, parce que voilà, je comprends pas, c'est quoi cette histoire de fils en fait, hein. Il dit, mais moi je peux pas, donc est-ce que ça va être lui, est-ce que ça va être cet Eliezer? Et une autre leçon, c'est que malgré le fait qu'il y ait une promesse, la réalisation n'est pas venue tout de suite. Isaac n'est pas né immédiatement. Et ça nous dit que parfois, Dieu entend bien nos incompréhensions, entend bien nos prières, et puis il ne va pas forcément répondre tout de suite. Il y a des longs temps parfois avant qu'il y ait la réalisation d'une promesse ou la réalisation d'une réponse à une prière. Et Abraham, là, il est invité à continuer à faire confiance. Le fils va venir, et ce n'est pas Eliezer. Mais il ne voit pas tout de suite. Et donc parfois, ça nous dit que, il faut attendre encore. Et Abraham, il a dû attendre longtemps. Et par contre, Dieu comprend que Abraham a besoin d'être rassuré là encore. Hein. Il a peur, il comprend pas, et donc il va lui donner une réponse concrète à cette incompréhension. Et là, il lui fait faire encore une fois une chose physique. Il lui dit bon bah ok, viens, sors. Et donc au verset 5, hein, il le fit sortir et il lui dit regarde vers les cieux, compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit « Ainsi sera ta semence. » Et il crut l'Éternel, et il lui conta cela à justice. Chose très concrète. Viens dehors, regarde le ciel. Et Abraham, c'est quelqu'un, on l'a dit tout à l'heure, qui avait été élevé dans cette culture de l'adoration des astres, et en particulier du dieu lune. Et là, je trouve ça amusant que Dieu, finalement, lui fasse contempler le ciel. Parce qu'il lui fait, quelque part, ça lui rappelle peut-être les pratiques anciennes qui étaient celles dans sa famille, où on allait adorer le dieu lune, donc on sortait peut-être la nuit pour voir mieux la lune. Et là, Dieu lui fait voir le ciel, mais autrement. Et donc, il va utiliser ce qu'Abraham avait peut-être connu enfant, ou plus jeune, parce que finalement il a une vie longue, et lui montre, et là, lui dit, non, mais c'est pas pour adorer, c'est par contre pour voir que ta descendance, tu ne peux pas la compter. Elle est aussi nombreuse que les étoiles du ciel. C'est une descendance qui va être une descendance physique, mais aussi, évidemment, on le sait, c'est ce que l'Épître aux Romains montre bien, hein, c'est une descendance spirituelle. Les enfants d'Abraham, spirituellement. Et donc, là, Abraham, il passe de cette ancienne pratique à une nouvelle foi. Et la foi d'Abraham, justement, c'est de sortir de peut-être une sorte d'astrologie, on contemple le ciel pour essayer de deviner ce qui est déjà inscrit d'avance. Vous savez, l'astrologie, c'est ça, hein, ceux qui y croient. Il y a des choses, il y a le destin, c'est écrit d'avance. Et donc, on va regarder pour voir ce qui est déjà là. Et on ne peut rien y faire. Voilà, on va juste essayer de deviner l'avenir. Et là, ce que Dieu lui montre, c'est que en fait, il est appelé à autre chose. Et qu'il a non pas une foi qui est qui est morte et qui finalement n'est là que pour vivre ce qui est déjà inscrit d'avance, mais qu'il a, il a cet appel à une forme de liberté dans sa relation avec Dieu et une vocation, un appel réel à vivre les choses et à voir que voilà, il y a cette, cette descendance nombreuse spirituelle qui va naître et Abraham peut voilà, interroger Dieu, peut être en relation avec lui et peut entrer dans le plan de Dieu, non pas pour le subir, mais pour y participer. Et ça, c'est je crois, la raison pour laquelle la foi d'Abraham est, est différente de celle de ses parents. Et quand il contemple le ciel, il passe non plus dans l'astrologie, de l'astrologie, enfin, il rentre pas dans une, c'est pas de l'astrologie, c'est vraiment pour contempler ce que Dieu a en réserve pour lui et des promesses dans lesquelles il est invité à rentrer. Et finalement, notre foi, elle est la même. C'est une foi qui est une foi d'enfant libre, qui cherche à comprendre, qui cherche à interroger, qui cherche à transformer le monde qui est autour de nous en relation avec Dieu et qui ne subissent pas de manière fataliste ce que Dieu aurait voilà, mis là et pour lequel on aurait rien à faire parce que sinon, bah, pourquoi prier finalement? Et là, voilà, il y a cette foi active, cette foi de quelqu'un qui s'engage et qui croit réellement. Et là, il y a ce verset capital, hein, il crut et l'Éternel lui compta cela à justice. Et c'est ça qui est développé dans l'Épître aux Romains. C'est le fait que Abraham avait toutes les raisons de ne pas croire. Et pourtant, il va rentrer dans le plan de Dieu. Et il va être pleinement persuadé, nous dit l'Épître aux Romains, pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est aussi puissant pour l'accomplir. Et donc là, ça nous montre que la foi est centrale. Abraham ne pouvait rien faire pour faire advenir la promesse de Dieu lui-même, mais il fallait qu'il s'engage et qu'il ait foi dans le fait que Dieu pouvait accomplir ce qu'il avait promis et qu'il pouvait voilà, rentrer là-dedans. Et donc ça, c'est ce qui est rappelé dans l'Épître aux Romains, dans ce verset hein, où l'apôtre Paul, je crois que je l'ai lu tout à l'heure, hein, il sera « Nous qui croyons hein, aussi hein, » en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. C'est ce que Paul met en parallèle de cette comparaison avec la foi d'Abraham. Et puis, dans l'Épître aux Galates, Paul mentionne aussi Abraham pour dire « Si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. » Et ça nous montre bien cette semence qui a été promise à Abraham, cette foi aussi qu'Abraham a eue, c'est la même que notre foi et que la promesse, elle s'étend à tous les croyants en Jésus-Christ. Donc la foi en Jésus-Christ, selon l'Épître aux Romains et selon l'Épître aux Galates, et aussi finalement l'Épître aux Hébreux, hein, c'est bien la même foi que celle d'Abraham. Foi en Jésus-Christ, la foi d'Abraham, elles sont mises en parallèle. Bon, et pourtant, j'ai pas trop parlé d'Agar et d'Ismaël pour l'instant. Il y a eu ces promesses au chapitre 15. Il y a eu cette justice qui est comptée à Abraham. Et pourtant, au chapitre 16, il y a ce doute qui assaille Sarai à l'époque. Elle s'appelle encore Sarai. Et pourtant, les promesses étaient claires. Mais il y a ce doute qui reste. Et plus le temps passe, plus Sarai, peut-être, se sent humiliée. Elle se sent humiliée qu'il y ait cette promesse qui dure, et puis qu'il y ait toujours cette stérilité. Et c'est vécu comme une humiliation pour elle. Il n'y a pas de réponse à cette promesse, il n'y a toujours pas d'enfant qui naît. Et donc elle suggère qu'Abraham aille avec Agar. Alors, on peut s'étonner. On se dit, mais pourquoi cette suggestion? Alors, ce que j'ai lu, c'est qu'à l'époque, c'était une pratique qui était acceptable, en tout cas, c'est quelque chose qu'on faisait parfois, d'avoir un enfant avec une servante, et c'était compté comme enfant de la maison. Le code d'Hammurabi, qui est un peu une sorte de loi antique, hein, du Proche-Orient ancien, montre que c'était quelque chose qui était inclus, et qu'on pouvait faire ça. Bon. Ça semble moins saugrenu quand on sait ça, de se dire « Ok, elle a cette idée. » Mais l'idée n'est pas si bizarre parce qu'elle existait à l'époque. Peut-être c'était acceptable. N'empêche que c'est pas vraiment ce qui était prévu. Et Abraham, lui, Abraham à l'époque, hein, il obéit un peu comme Adam. Et on l'a lu il n'y a pas très longtemps, hein, cette histoire de la chute. Hein. Adam, il dit trop rien, il suit la suggestion de sa femme. Ben là, Abraham, il fait un peu pareil. Il n'affirme pas vraiment sa foi dans la promesse que Dieu lui a faite, et pourtant, ça semblait clair au chapitre 15. Et bon, voilà, il fait ce que sa femme lui dit. Et là, les conséquences sont assez désastreuses. Parce que Agar, qui va être enceinte, ne respectera plus sa maîtresse, Sarai, parce qu'elle n'est pas enceinte. Abraham, il ne prend pas vraiment en considération les souffrances de sa femme. Donc là, voilà, au niveau du couple, les conséquences sont dures. Et Sarai, elle-même, elle souffre et elle en veut à Abraham, alors que c'est elle qui avait suggéré à l'origine, mais elle en veut à Abraham et pour se venger, elle maltraite Agar. Et Agar finit par s'en aller. Et là, l'ange de l'Éternel rappelle Agar, va la voir, et lui dit hein, que les promesses vont s'accomplir en partie via Ismaël, hein, puisque au chapitre 16, donc au verset 10, il dit hein, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai beaucoup ta semence, et elle ne pourra se nombrer à cause de sa multitude. Et l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Ismaël, car l'Éternel a entendu ton affliction. Bon, etc. Et donc, il y a bien cette promesse qui quand même concerne un peu Ismaël, même si la promesse de bénédiction, elle est réservée à l'enfant de la promesse, qui est bien Isaac. Et donc, même si après, il y a une séparation, Dieu est quand même apparu à Agar. Et il a pris soin de répondre à la prière d'Agar et a pris soin de veiller quand même à la descendance d'Agar. Et Ismaël, c'est bien Dieu a entendu. Et on en vient, voilà, au fils de la promesse, l'enfant de la promesse, c'est Isaac. Alors, on va aller au chapitre 18 avec cette visite des trois visiteurs au chêne de Mamré, qui arrive et qui demande où est Sarah. Donc voilà. Et quand ils arrivent là, ils demandent où est Sarah et ils lui répètent la promesse. Et là, Sarah, elle va rire. Elle va rire et c'est quelque chose qui se répète un peu plus loin. À nouveau au chapitre 21, il y a deux rires. Il y a le rire avant et le rire après la naissance d'Isaac. Et si on regarde le rire après la naissance d'Isaac, je trouve intéressant, au chapitre 21, verset 6, Sarah dit, Dieu m'a donné lieu de rire. Quiconque l'entendra rira avec moi. Et elle dit, qui eût dit à Abraham, Sarah allaitera des fils, car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Et donc le rire là, il est un peu différent. Le rire avant, c'est peut-être un rire amer. Le rire avant la naissance, c'est encore une fois comment un fils pourrait naître. Et par contre, le rire après, c'est un rire de jubilation. Tout le monde rira avec moi. C'est merveilleux ce que Dieu a fait. Et donc là, on voit que finalement, la promesse de Dieu, elle s'accomplit en temps voulu. Voilà, cette promesse. Elle a une fin, elle a une réalisation en temps voulu. Et elle s'accomplit, on le voit au chapitre 21, dans tous les détails. Alors je ne peux pas voilà, tout lire, on n'a pas le temps, mais si vous relisez le chapitre 21, vous verrez que tous les détails de ce que Dieu avait promis voilà, s'accomplissent. Et c'est un sujet de joie, de reconnaissance, de voir que Dieu tient ses promesses et de constater qu'il est fidèle. Et s'il a été fidèle pour Abraham, à combien plus forte raison il l'a été pour nous. Alors la suite, elle est un peu plus sombre, parce qu'ensuite, il y a la colère de Sarah, il y a la séparation d'avec Ismaël. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que Dieu ne se soucie pas d'Ismaël. Et au contraire, hein, voilà, il va veiller aussi sur Ismaël. Mais voilà, ce n'était pas lui l'enfant de la promesse. Et l'attention, ensuite, dans la parole, se porte sur Isaac. Et puis, pour finir, il y a cet épisode assez surprenant, de la ligature d'Isaac. On parle de ligature parce qu'il a été lié, il n'a pas été sacrifié, finalement. Mais il y a cet épisode qui est troublant, où Dieu demande à Abraham, qui a déjà été testé pour sa patience, il lui fait un test suprême de sa foi en lui disant « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Voilà. Il demande d'aller offrir son fils en holocauste. Et Hébreux 11 nous dit que, finalement, là, Abraham, il a en tête que Dieu pourra ressusciter Isaac. Et que c'est possible que finalement, bien que mort, il puisse revivre. Et il nous dit, hein, finalement, Isaac, il l'a pas sacrifié, mais c'est comme s'il l'avait reçu des morts. En figure, c'est comme s'il l'avait vu ressusciter. Et on sait que Dieu, finalement, a arrêté le geste d'Abraham et puis il lui a promis à nouveau la bénédiction, la multiplication de sa descendance et la victoire sur ses ennemis. Et donc ça, c'est le chapitre 22. Et on voit qu'il y avait déjà cette foi d'Abraham qui dit hein, « Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste ». Il a cette idée que peut-être il y aura quand même substitution. Et ça, c'est quelque chose qu'évidemment nous lisons différemment parce que nous connaissons le Nouveau Testament et qu'on sait que l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ, celui qui est appelé l'agneau de Dieu par Jean-Baptiste dans l'Évangile selon Jean, hein, c'est bien Jésus-Christ. Et donc on comprend que ce principe de substitution, où quelqu'un devait mourir à la place, donc là l'agneau, alors en réalité c'est un bouc, hein, qui va mourir à la place d'Isaac, c'est comme pour nous la substitution de Jésus-Christ qui meurt à la place de chacun d'entre nous. Et quand Dieu dit hein, « Prends ton fils, ton unique », évidemment ça nous rappelle toutes ces paroles qu'on entend dans l'Évangile où Jésus-Christ est appelé celui que Dieu aime, le Fils unique. Et c'est Jésus-Christ, encore une fois, se substitue. Et quand il y a à la fois au baptême de Jésus et pendant la transfiguration, il y a ces mêmes mots. Hein. Voilà, celui-ci est mon Fils. Et puis, le lieu qui est choisi, c'est un lieu qui est finalement appelé Jéhovah Jiré. L'Éternel pourvoira, l'Éternel y pourvoira. Et ça, ça nous parle bien de la façon dont Dieu pourvoit aux ressources spirituelles nécessaires, mais aussi aux ressources matérielles qui sont nécessaires. Et Romains 8, hein, je lirai ce verset, hein, « Celui-même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui ?» Et donc on a là, dans cet épisode de Genèse 22, déjà, le fait que Dieu pourvoit en toute chose et Dieu a pourvu avec Jésus-Christ en ce sacrifice parfait, cette substitution pour nos péchés. Alors, bon, ça c'est juste pour le plaisir, ce tableau du Caravage. On ne voit pas bien, mais le cri d'Isaac m'a beaucoup touché de voir cette façon dont voilà, il est là, et certainement cette incompréhension et le geste arrêté. Par l'ange. Alors, je ne lirai pas tout, on n'a pas le temps, mais simplement, j'avais noté quelques références à Abraham dans la suite du Pentateuque, à la fois dans la Genèse, mais aussi dans d'autres livres du début de la Bible, hein, où on a bien cette référence aux deux promesses, à la fois du pays et de la descendance. Et à chaque fois, Dieu fait référence, le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, je donnerai le pays à ta semence après toi. Quand on parle, donc ça c'est pour Jacob, quand il est question à Joseph, de la suite de l'histoire de Joseph, hein, ce pays-ci, voilà, je vous fera monter de ce pays-ci dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc on voit bien qu'il y a cette référence à nouveau à Abraham. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et puis, quand dans l'Exode, Dieu se présente à Moïse, il lui dit hein, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ouais. » Donc à chaque fois, on a ce retour à l'alliance, l'alliance fondamentale, à la fois pour le pays et pour la descendance. Et on voit que ça concerne évidemment Abraham, mais ça concerne bien tous ceux qui viendront après lui. Donc cette alliance, elle est fondamentale et elle est sans cesse rappelée dans la suite jusqu'à la fin du Pentateuque, hein, des livres de Moïse, mais aussi dans la suite à Josué, etc. Il y a toujours cette référence à cette alliance fondamentale. Donc quand on a parlé la semaine dernière et cette semaine de tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas passé inaperçu dans l'histoire du peuple. Et on a parlé de le fait qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait un peuple et qu'il y avait un pays. Et on voit bien que là, les choses sont concrètement rappelées par la suite avec ce Dieu qui rappelle sans cesse qu'il a choisi son peuple et que ce peuple est devenu nombreux conformément à la promesse et qu'il a bien reçu le pays. Alors, avec des difficultés qu'on connaît, on sait que ça a pris du temps, on sait que dans l'histoire de la conquête dans Josué est longue, mais il y a bien toujours cette référence à l'alliance qui est fondamentale entre Dieu, son peuple, et qui lui donne son pays. Mais pourtant, voilà, ça ne s'arrête pas là, puisque ensuite, dans le Nouveau Testament, il est encore question d'Abraham, et Jésus utilise cette référence quand il dit que finalement, cette promesse, c'est une preuve, par exemple, de la résurrection. Dans l'Évangile selon Marc, Jésus-Christ dit « Quant aux morts et à ceux qu'ils ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au titre du buisson, comment Dieu lui parla, disant « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et ça, pour lui, c'est une preuve que ça ne s'arrête pas, la vie ne s'arrête pas à la mort sur terre, puisqu'ils sont là et que c'est bien le Dieu des vivants, et qu'ils sont vivants, ils ont cette résurrection. On a des références, on voit que le sein d'Abraham, c'est le lieu de la félicité pour les croyants. La pauvre Lazare est transporté dans le sein d'Abraham au chapitre 16 de l'Évangile selon Luc. Et donc c'est bien le lieu où tous les croyants finalement se retrouvent conformément à cette foi et cette promesse d'avoir de nombreuses descendances dans la foi. Le sein d'Abraham, nous sommes dans le sein d'Abraham, nous qui sommes croyants. Et puis, ce chapitre 8 de l'Évangile selon Jean, où finalement Jésus parle de qui sont les vrais descendants d'Abraham. Est-ce que ce sont les Juifs uniquement selon la chair, ou est-ce qu'on va bien plus loin et on parle bien d'une descendance spirituelle. Au chapitre 8 de l'Évangile selon Jean, Jésus dit, dans ce dialogue, hein, donc il y a les pharisiens qui lui disent « Abraham est notre père ». Et Jésus leur dit « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham ». Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai oui de Dieu, Abraham n'a pas fait cela. Et plus loin, il dit, hein, au verset 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. » Et il l'a vu, et il s'est réjoui. Et ça, c'est frappant de voir à quel point Jésus se place directement dans cette relation avec Abraham et montrer qu'Abraham, par la foi, a vu la naissance de Jésus-Christ, il avait vu ce qu'allait signifier Jésus-Christ pour l'histoire de l'humanité, la façon dont Jésus-Christ allait accomplir définitivement cette promesse d'une descendance nombreuse, et c'est ce que Paul, je l'ai lu hein, déjà, donc je ne vais pas répéter, mais c'est là-dessus que Paul se base aussi dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates, et puis pareil pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, hein, il parle de cette foi d'Abraham et de la façon dont nous-mêmes, croyants, chrétiens, nous sommes les descendants d'Abraham par la foi. Voilà, donc cette importance de la foi d'Abraham, j'espère que ça n'a pas été trop riche, c'est difficile de traiter de tous ces chapitres en même temps, mais je crois qu'entre la semaine dernière avec cette promesse à la fois du pays, mais aussi ce que signifie pour nous voilà, cette promesse d'une descendance spirituelle, on comprend bien l'importance, le fondement, pourquoi Abraham est si important dans l'histoire de la Genèse, mais dans l'histoire plus largement du peuple, et dans notre histoire, nous qui sommes voilà, les héritiers de cette foi qui est celle d'Abraham, notre père.